7h22, on vous souhaite un très bon début de journée à l'antenne du réseau Cogeco en ce dimanche matin. Nous sommes le 16 septembre 2018. Bien sûr, on suit pour vous l'évolution de ces tempêtes. C'est Florence sur la côte est américaine, où si le vent a baissé énormément, la force, la vélocité du vent, c'est quand même réduit. On parle maintenant des inondations et des quantités de pluie diluvienne. On parlait de plus de 1000 mm de pluie à tomber en moins d'une semaine avec cette tempête qui avance tranquillement, qui reste un peu stagnante et qui devrait se déplacer sur l'ouest du continent et ensuite remonter vers le nord. Ça n'a pas vraiment changé pour le moment, mais ce que craignent les différentes autorités, autant de sécurité publique que les politiciens, c'est que des gens disent, voient les vents se calmer énormément. La pluie également diminue en intensité, retourner vers leur domicile. Mais ce que racontent les autorités, c'est qu'ils préviennent en disant « Prenez bien votre temps avant de retourner chez vous parce qu'il y a encore des risques d'inondation et vous n'avez pas vu. » Et l'eau, phénomène de ruissellement, n'est pas différent non plus là-bas. On est soit dans des terres marécageuses, donc c'est gorgé d'eau et ça prend du temps avant de reprendre son chemin normal. Ou s'il y a des terrains un petit peu plus vallonneux, ben le phénomène de ruissellement ramène des cours d'eau qui semblaient tout à fait normales et en l'espace de quelques heures deviennent gonfles de façon spectaculaire. Donc, pour l'instant, ce que l'on dit, il y avait officiellement hier en soirée 9 morts au bilan. Maintenant, on parle possiblement de 11 morts, 9 et 11. Honnêtement, ça change pas grand-chose. C'est des décès qui, malheureusement, sont beaucoup causés en raison des pluies, inondations dans ce secteur. Donc ça sera à surveiller. On y reviendra tantôt avec quelqu'un qui habite sur place. Et pendant ce temps, en Asie, c'est le typhon Mangkhut qui frappe et on parle au moins de 28 morts aux Philippines, mais les vents qui sont... On a parlé beaucoup des vents avec Florence qui ont diminué. Là-bas, on parle de vents de 240 km à l'heure en rafale qui ont soufflé et les images sont impressionnantes. Vous avez vu cette grue sur un chantier de construction et qui tourne apparemment comme une girouette au sommet de ce building en construction. Les images que notre chercheuse François Arnois me montrait tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui est à l'extérieur et tente de se protéger du vent, à contrario de ce météorologue qui a fait un fou de lui là aux États-Unis, en prétendant qu'il y avait des vents qui étaient terriblement forts alors qu'il n'y avait à peu près rien et qui a inventé ça carrément. On dit que dans une époque où on parle beaucoup des fake news, il y en a qui nous aident pas beaucoup. Ceci dit, je ferme la parenthèse, mais allons-y avec ce qui se passait là-bas. Et vous voyez quelqu'un qui tente d'aller l'aider et les deux pieds partent, mais avec le vent, il est propulsé contre un muret de béton. Je vous dis une chose, il n'y a pas de trucage là-dedans, puis il n'y a certainement pas quelqu'un qui a fait exprès parce qu'à la vitesse où elle se retrouve dans le mur, mais les vents sont impressionnants et les pluies également dans ce secteur du monde. Donc, c'est deux tempêtes. Il y en a d'autres en préparation dans l'Atlantique également dont on suivra l'évolution au courant de la prochaine semaine. Si on revient plus près de chez nous, en campagne électorale hier, différents éléments là, d'intérêt, entre autres, bon, il y a eu différentes plateformes, différents engagements. L'immigration s'est réinvitée dans le débat hier. On est revenu en disant, est-ce que c'est la question de l'urne, est-ce que c'est pas la question de l'urne? Fait toujours rire, moi, de voir des politiciens décider, c'est qu'est-ce qui va être la question de l'urne ou pas. C'est donc ça l'électeur qui va décider si oui ou non. Qu'est-ce qui va être la question? Est-ce que, je peux vous dire une chose, ce que l'on sent dans la population, est-ce que c'est une... On l'a vu beaucoup dans le passé, dans les 50 dernières années. Puis l'élection de 2014 était vraie à ce point. Il y a beaucoup de gens qui, par la sortie de Pierre-Carl Péladeau, en ont fait une élection quasi-référendaire. Est-ce que c'était le retour de la question nationale avec le point d'insert, vous vous souviendrez de ça? C'était peut-être devenu la question de l'urne à ce moment-là. L'immigration, est-ce que c'est la question de l'urne ou la question de l'urne ou comme on le perçoit, puis à force de courriels puis d'appels qu'on peut prendre, si vous regardez dans votre entourage, la question est de savoir, est-ce que des gens qui veulent débarquer le gouvernement libéral qui considère là depuis trop longtemps et qui est... Regardez pour ceux, je ne sais pas si vous en discutez avec des gens autour de vous, la perception que moi j'ai dans mon entourage ou que j'entends de gens qui ne voteront pas pour le Parti libéral, ce sont des gens qui se disent « Ok, moi je cherche une option parce que je suis tanné des voix. » Et qui est en meilleure position de les débarquer? La question à l'urne là, est pas mal plus là aussi. Fait que là, on revient là-dessus, sur la question de l'immigration, où là, François Legault s'est encore un peu enfargé sur les questions de combien on en reçoit ou combien on n'en reçoit pas, comment ça fonctionne le processus d'immigration. Philippe Couillard, lui, a réitéré que, dans le fond, le dernier mot revient à Ottawa, ce que racontait Le Devoir hier. François Legault lui rétorque que c'est une... C'est de l'aplaventrisme carrément devant les politiques d'Ottawa. Pendant ce temps, les péquistes ont présenté leur politique en numérique, mais ce qui a retenu l'attention, c'est que Michel Blanc a refusé de s'expliquer sur ses propos tenus en ligne sur la communauté juive hassidique, propos qui ont plus de 10 ans maintenant et qu'il a refusé de s'expliquer. Si on va dans quelques sondages un peu plus, un petit peu plus concentrés, là, on va aller voir, entre autres, des candidats vedettes de la coalition Avenir Québec. Vous savez que dans les sondages qui sont menés par Le Soleil qui fait cet exercice-là, entre autres, c'est Louis Lemieux qui, dans Saint-Jean, serait en avance sur le député sortant Dave Turcotte, pourrait se retrouver justement sorti, alors qu'il était le député lui-même de l'endroit dans Saint-Jean. Député sortant qui récolterait 26,5% des voix, alors que Louis Lemieux, l'ancien animateur de Radio-Canada et de RDI, est à 40% des appuis, alors que la candidate libérale est troisième. Et dans Terrebonne, Lanaudière, c'est Pierre Fitzgibbon, qui est un des candidats de la CAQ, qui lui aussi aurait 40% des voix, notamment versus son adversaire, qui est le député sortant péquiste Mathieu Traversy, qui lui aurait 30% des appuis. Puis pour ce qui est du libéral et Québec solidaire, là, on parle de loin dans la course. Dans d'autres endroits également, dans d'autres sondages, le député sortant Harold Lebel, c'est une course pas mal plus serrée, semble-t-il, qu'on l'attendait, entre M. Lebel, qui a un bon capital de sympathie là-bas, face à la candidate caquiste Nancy Lévesque, 31,7, 31,5, on est dans marge d'erreur à ce moment-ci. Ce sont des sondages donc menés dans ces circonscriptions et c'est Le Soleil qui nous rapporte ça dans le papier de Jean-Marc Salvet aujourd'hui que vous allez retrouver en ligne sur le site web du journal Le Soleil. Et si je prends entre autres Gertrude Bourdon dans sa circonscription également, qui ça rien de gagné pour elle là, présentement à Québec. Ça, c'est un sondage qui avait été réalisé hier et présenté aussi dans Le Soleil. En marge de la campagne électorale, est-ce que les jeunes s'intéressent à la politique? La réponse est oui, semble-t-il. Ils croient à la démocratie, ils croient aux institutions. Le problème, c'est que c'est les politiciens qui les représentent qui ne croient pas pantoute. Et les jeunes ne s'identifient à aucun parti politique. 66%, le deux tiers des répondants, qui ne font pas confiance aux politiciens. Quel est l'intérêt principal des jeunes de 18-34 ans? On dit que c'est l'accès à des soins de santé à 43%, l'éducation en deuxième lieu, la protection de l'environnement troisième, l'économie et la famille. Donc, qui conclut le top 5 de leur champ d'intérêt. Parlons d'éducation un brin. Je veux faire ça un petit peu plus succinctement là, pour les autres nouvelles. Entre autres, des programmes particuliers qui sont menacés. Une nouvelle politique au ministère de l'Éducation concernant la gratuité qui doit être fournie. Puis, il y a des programmes qui, eux, à vocation particulière, ce n'est pas gratuit pour les parents qui... et pour les écoles qui les organisent, les commissions scolaires qui les chapeautent. Mais ce sont des programmes qui coûtaient quelque chose aux parents, puis les factures ont été réduites. On parle, entre autres, d'un cas en particulier, Journal de Montréal aujourd'hui, à De Mortagne, c'est un programme d'éducation internationale qui coûtait 831 $, baissé à 395. Puis si on regarde simplement pour l'école, ça manque à gagner 180 000 $, et là, on se demande, puis ça, c'est un programme à vocation particulière, là, il n'y a pas de secret là-dedans, là, c'est voué à concurrencer l'école privée. Ça a eu succès. On parle de 20% à peu près des jeunes qui fréquentent l'école publique qui ont accès à ce genre de programme-là. Puis on se demande si ça pourra exister dans le temps à long terme en raison de ces manques à gagner. Je vais vous parler aussi rapidement du Festival Western de Saint-Tite qui se termine. Est-ce que c'est la dernière année où on vit des rodéos comme on les connaît en raison de ce débat? Il y a une commission qui se penche également sur le bien-être animal et qui va faire des recommandations au gouvernement du Québec. La semaine passée, Philippe Couillard qui était passage là-bas en disant « Non, le rodéo va pouvoir continuer d'exister. » Mais dans sa forme actuelle, ça, c'est une autre affaire. Beaucoup ciblé là, les récriminations, les gens qui sont pour les droits des... Je veux dire, les droits des animaux... Ça me dérange un peu dans l'appellation parce que c'est comme si, moi, foncièrement, vous connaissez ma position, je ne suis pas contre les rodéos, mais c'est comme si j'étais contre le droit animal. Il y a une dichotomie entre les deux, puis on parlait de nuances grises tantôt, là, il y en a pas mal de nuances grises là-dedans. Ceci dit, est-ce qu'il y a des étapes ou des épreuves qui pourraient être revues? Je pense que, entre autres, celle qui est surtout ciblée, là, c'est celle de la prise du veau au lasso, où on dit sur le traumatisme du jeune bouvillon, du jeune bouvillon, voilà, qui court, du jeune veau qui court plutôt, et qui est attrapé et retiré par l'arrière par le lasso comme ça, il peut y avoir des traumatismes au cou et des risques de blessures qui sont un peu plus importantes. Est-ce qu'on va y aller? Moi, je vais y aller vers une piste que je vous soumets, là. C'est par entre autres, observation avec le temps, est-ce qu'on va laisser tomber ce genre d'épreuve-là, qui existe en passant là, encore dans des vrais ranchs? C'est comme ça qu'on rattrape des veaux qui s'éloignent du troupeau, qui sont trop loin, puis je vais même aller plus loin que ça. Lorsqu'on les ramène vers le troupeau, ils sont traînés dans le sable par la corde, ce qui n'existe pas dans le rodéo en passant. Je ferme la parenthèse, mais est-ce que on va y aller vers une épreuve qui s'appelle le breakaway roping qui existe chez les femmes? C'est-à-dire que on attrape au lasso. Lorsque le lasso passe sur la tête de l'animal, le lasso se détache finalement des mains et finalement la bête n'est pas tirée par l'arrière. Il n'y a pas cet effet, cette espèce d'effet là de ce qu'on appelle de whiplash là, qui va revenir par en arrière. Et le veau continue, puis on ne fait que chronométrer le temps d'attraper. Et les risques de blessure sont, je vous dirais, quasiment nuls dans ce cas-ci. Là. Donc, est-ce que c'est vers ça que l'on se dirige? Je ne le sais trop. On va se laisser sur une belle histoire. Il y a toutes sortes d'histoires dans le journal ce matin, une autre histoire de gens qui attendent des préposés, qui n'ont pas droit à leur service parce qu'il manque de personnel. Puis quand quelqu'un ne rentre pas, ben ils sont pognés dans leur lit. Je pense à quelqu'un qui a le syndrome de la maladie Guillain-Barré. Et elle sort du lit à 10 heures. On la remet au lit à 4 heures le soir pour sa nuit. Donc, elle a à peu près pas de temps debout. Elle manque des rendez-vous médicaux parce qu'il n'y a pas de personnel. Ça, c'est triste. C'est épouvantable. Souvenez du cas de Sabrina Mongeon, jeune femme qui a été électrocutée au temps des fêtes dans l'Outaouais. Elle sort de son véhicule. Elle ne voit pas en pleine noirceur qu'il y a un fil électrique tombé sur son véhicule. Elle sert carrément de lien, de paratonnerre entre la ligne électrique et le sol. Elle est amputée à 10 reprises, 2 avant-bras, les 2 jambes. Elle est en réadaptation. C'est pas facile, là. C'est pas facile ce qu'elle vit présentement. On raconte dans le Journal de Montréal aujourd'hui qu'elle a trouvé l'amour au centre de réadaptation. Elle s'est fait un chum là-bas. Puis semble-t-il que ça l'aide beaucoup dans sa remise en forme. Puis semble-t-il que le moral est quand même bon. Ça, c'est dans le rayon des bonnes nouvelles aujourd'hui. Le voici dans le Journal de Montréal, 7h34.